Rebecca Ben-Delgas.
Un conte d'Algérie.
Ce jour-là, dans la grande tribu arabe des Beni Hilal, naît la petite Embarka. Le même jour, sept chamelles donnent naissance à sept chamelons mâles, tous blancs comme le sont les nuages.
Voilà le signe que ma fille aura une nombreuse descendance mâle.
S'écrie aussitôt son père, le Kass, autrement dit, le chef de la tribu.
Qu'elle en soit bénie. Moi qui attendais un garçon, cela chasse ma déception et respecte la tradition. Ma fille sera honorée. J'exige que l'on fête sa naissance pendant 7 jours et 7 nuits. Et vous l'appellerez Embarka Ben-Telkas, ce qui signifie Embarka la fille du chef, pour que nul n'ignore son haut rang.
Pourquoi a-t-il parlé ainsi, ce rude chef du désert qui, selon la tradition, ne fête que les naissances de garçons? Sans doute le lien qui allait unir ces deux-là était-il déjà très fort. Bien vite, Embarka montre un caractère tout à fait exceptionnel. Volontaire et curieuse, elle refuse de rester confinée dans l'univers des femmes. Et elle fait tout pour que son père ne sache plus se passer d'elle. Il accepte de l'emmener à travers ses longues chevauchées, à travers le désert qu'il habitant, et qui lui rappelle l'époque où sa tribu était encore nomade. Plus tard, Embarka demande à son père de lui apprendre à monter à cheval et même de lui enseigner le maniement des armes et les stratégies de la chasse. Au début, on a ri de cet attachement du Kass pour sa fille. Mais plus Embarka grandit, plus le lien avec son père se resserre. Celui-ci la considère même comme sa plus fidèle conseillère. Des murmures commencent alors à s'élever.
Notre Kass est envoûté par sa fille. D'ailleurs, regardez son étrange chevelure rousse. Aussi indomptable qu'elle, c'est une diablesse.
Même la mère d'Embarka se désole.
Quel homme accepterait d'avoir pour épouse une guerrière, une chasseresse, une cavalière qui connaît mieux le désert que l'intérieur de sa maison?
Mais le Kass veut faire taire ses calomnies. À son cercle de conseillers, il déclare:
ma fille est courageuse et très intelligente. Je me plais plus en sa compagnie qu'en celle de bien d'entre vous, messieurs. Quant à son mariage, elle y pensera quand le moment sera venu. Reconnaissez donc plutôt comment elle sait débrouiller une affaire, comment elle sait apaiser les querelles avec nos voisins, comment elle sait leur vendre notre bétail. Nous lui devons notre prospérité et le fait de vivre en paix, car j'écoute ses conseils.
Et bientôt, par-delà les dunes, nombreux sont ceux qui louent la sagesse et la perspicacité d'Embarka Ben-Telkas. Mieux encore, le Kass donne à sa fille tant aimée le jour de ses 20 ans la gouvernance de son sar le plus stratégique. Une ville fortifiée que les Beni Hilal ont peu à peu érigée aux portes du désert. C'est une place très convoitée et, très vite, on sait qu'elle est dirigée par une femme. Ce qui, bien sûr, déclenche bien des interrogations aux alentours, voire à l'intérieur de la ville même. Un jour, un sultan berbère de la région voisine, riche et puissant, demande la jeune femme en mariage. Il est ébloui par sa beauté et il est surtout intéressé par la possession de cette ville si bien placée. Mais Embarka Ben-Telkas n'est pas dupe et refuse ses avances. Le sultan patiente un peu, puis, comprenant qu'Embarka ne cédera pas, finit par se mettre en colère.
Une femme croit pouvoir m'imposer sa loi. Une femme m'empêcherait de posséder cette ville. Nous verrons combien de temps elle me résistera.
Et il envoie une troupe de guerriers assiéger la ville. Embarka, qui depuis longtemps avait vu venir le danger, a fait emmagasiner beaucoup de nourriture et d'eau. Du haut des murailles, ses guerriers repoussent sans difficulté les ennemis, qui, régulièrement, tentent de pénétrer dans l'enceinte. Mais le sultan ne s'inquiète pas. Il est sûr que le temps travaille pour lui.
Non, je ne m'inquiète pas.
Ses troupes restent là, empêchant toute sortie des habitants, et donc tout ravitaillement. Au bout de 3 longs mois, Embarka Ben-Telkas commence à s'inquiéter de la diminution lente mais inexorable des provisions. Elle sait aussi que les assiégeants se lassent de ce siège et que eux commencent également à manquer de tout, mais pas assez cependant pour partir. Alors, Embarka rassemble tout ce qu'il reste de nourriture et de fourrage. Elle choisit une chèvre et la nourrit chaque jour avec abondance. Dans les ruelles du Ksar, on murmure qu'Embarka garde pour elle la meilleure des viandes. La chèvre, effectivement, grossit, tandis que les quelques bêtes qui restent à la ville sont de plus en plus maigres et meurent une à une. Une nuit, discrètement, Embarka fait sortir la chèvre de l'enceinte. Les ennemis voient cette bête bien grasse courir devant eux.
Chef, regardez, les habitants ont encore de quoi engraisser leur bétail. Ils ne sont pas prêts de mourir de faim. Alors que nous, nous ne mangeons plus de viande depuis plusieurs semaines.
Le chef est interloqué. Cependant, le sultan ne lui a pas donné l'ordre de se retirer. Le siège doit se poursuivre.
Ils ont encore de la viande, mais ça m'étonnerait qu'ils aient encore beaucoup de grains.
Répond le chef d'un air méprisant qui cache son étonnement. Mais Embarka a prévu la pensée du chef ennemi. Le lendemain, elle rassemble tout ce qu'il reste de semoule et fait installer sur la muraille de grandes jarres remplies à ras-bord de cette belle céréale dorée.
Chef, regardez, ils nous narguent avec leur blé. Ils ont encore de quoi cuire des centaines et des centaines de galettes, alors que les nôtres seront de plus en plus fines.
Les jarres disparaissent bien vite du haut des murailles, avant que ne se lève le vent. Car, sous la mince couche de quelques grains de semoule qui restent à la ville, se cachent juste des monticules de sable.
Qu'ils nous narguent !
S'énerve le chef ennemi.
S'ils ont à manger, qu'importe, c'est la soif qui les vaincra.
Mais, là encore, la fille du casse a tout prévu. Le lendemain, tous les habitants du Xoar reçoivent l'ordre d'apporter leur maigre réserve d'eau. Beaucoup le font à contre-cœur en maugréant. L'eau est plus précieuse que la nourriture. Embarka veut-elle se l'approprier pour elle toute seule? Mais les guerriers de la jeune femme sont là, qui font oublier l'idée de désobéir. L'eau est rassemblée dans un grand bassin, et chacun reçoit une gourde pleine.
Que cela vous suffise pour 3 jours,
déclare Embarka.
Aucune goutte supplémentaire ne vous sera accordée. Et vous, les femmes, allez me chercher votre linge sale. Apportez vos gandouras, vos jupes et vos foulards.
En disant cela, Embarka a le regard dur. Elle sait qu'elle est en train de jouer la vie de ceux que son père lui a confiés. Si sa ruse échoue, ils devront capituler et ouvrir les portes de la ville. Elle sait aussi que les ennemis, exaspérés par cette longue résistance, ne leur feront pas de cadeau. Les enfants et les vieillards seront massacrés, les plus jeunes vendus comme esclaves. Elle-même sera conduite chez le sultan, qui, humilié d'avoir été défié par une femme, lui fera subir les pires outrages. Mais elle sait surtout qu'elle ne doit rien montrer de ses angoisses. Les femmes reviennent la tête basse, les bras chargés. Embarka empoigne le linge sale et poussiéreux de la première et, devant tout le monde, le trempe dans la dernière eau potable qui reste à la ville. Un hurlement de rage s'élève de la foule. Aussitôt, les gardes lèvent leurs épées pour protéger la fille du casse.
« Je veux, »
hurle Embarka,
« que toutes vous laviez votre linge dans cette eau. Que celle qui s'y refuse soit immédiatement fouettée. Quant à vous, les hommes, jouez de la musique, frappez de vos tambours comme si nous préparions une grande fête. »
Il y a dans sa voix tant de conviction, mais aussi tant de désespoir, tant d'autorité et pourtant tant d'amour pour son peuple que chacun obéit. Sur les plus hautes terrasses qui dominent la muraille, Embarka fait tirer de longs fils et chaque femme vient y étendre son linge lavé. En contrebas, englués dans leur ennui, le ventre ravagé par la faim, les ennemis, un à un, lèvent les yeux. La ville, assiégée, est recouverte de tissus mouillés qui se balancent joyeusement dans le vent. Les taches blanches ou multicolores sont comme des drapeaux insolents qui se moquent des guerriers épuisés, supportant depuis des mois l'inconfort de leur campement dans le sable.
Chef, regardez, il manque tellement d'eau qu'ils en ont encore à gaspiller pour laver leur linge. Écoutez, chef, écoutez, on entend leur musique. Ils préparent une fête. Il ne manque ni d'eau, ni de grains, ni de viande, alors que nous, nous traînons sales et affamés. Ce sont des gens diaboliques. Ce sont sûrement les génies du désert qui la nuit les ravitaille. Chef, chef, assez. Ils doivent être en pleine forme. Et même si nous arrivions à percer les portes de la ville, nous n'aurions jamais la force de les combattre.
Stupéfait, le chef aperçoit ce linge qui le nargue. Et la musique de plus en plus forte le rend fou de rage. Il regarde ses guerriers maigris, à bout de force. Lui-même ne peut plus croire en sa victoire. Quelques heures plus tard, la sentinelle cachée en haut de la muraille voit les ennemis lever le siège. Sur leurs maigres chevaux, ils disparaissent peu à peu dans les airs. Embarka Ben Belkas sort de son palais. Magnifique malgré ses traits tirés, elle s'adresse au peuple silencieux qui la regarde avec admiration.
S'il est encore un membre de notre tribu pour ignorer que la puissance de l'intelligence vaut plus que toutes les forces physiques réunies, qu'il s'avance.
Personne ne bouge.
S'il est encore un homme qui croit ne rien avoir à apprendre des femmes de notre tribu, qu'il fasse un pas dans ma direction.
Aucun homme ne s'approche.
Alors que la fête se prépare pour ce soir, et dans nos plus belles tenues, aussi propres que nos âmes courageuses et sèches comme le vent de notre serre désert.
On raconte que les 7 chamelons blancs, nés le même jour qu'Ambarka, ont tous survécu au siège de la ville. Ils sont devenus de fiers dromadaires. Mais on dit aussi que la fille du Caste n'a pas daigné se plier à la prédiction de son père, qui assurait qu'elle aurait de nombreux garçons. Il semble qu'elle ne se soit jamais mariée, mais qu'elle ait eu beaucoup d'amoureux. De l'un d'eux seulement, elle aurait eu un fils. Un seul. Et cela a suffi à son honneur.